Christophe Nijdam, bonjour.
Bonjour Didier.
Alors on va parler avec vous de cet anniversaire hein, de la crise de 2007-2008 hein, avec la faillite de Lehman Brothers. On rappelle que vous avez été banquier aux États-Unis hein, il y a maintenant quelques années, on ne va pas rappeler les dates précises. Vous avez été aussi analyste de ce secteur bancaire. On a eu l'occasion de faire un certain nombre d'interviews ensemble. Vous avez écrit également récemment un livre qui s'appelle « Parlons banque en 30 questions » et vous en êtes à la deuxième édition. Donc, c'est vraiment un secteur que vous connaissez parfaitement. 2007, 2008, 2018, est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les régulateurs ont bien compris ce qui s'était passé? On a parlé de subprime, de cette crise des subprimes, et ont bien analysé ce qui s'est passé?
Alors, ce qu'ils ont compris, oui. En revanche, on peut quand même dire, c'est que toutes les leçons de la crise n'ont pas été retenues. Par exemple, on envisage de relancer la titrisation européenne avec des systèmes de tranchage. Je ne voudrais pas être très technique, mais ça crée des conflits d'intérêts et ça fait partie des problèmes, disons, qui étaient à la base de cette crise. L'autre chose aussi qu'on n'a pas retenue comme leçon, c'est que on laisse la porte ouverte à la titrisation dite synthétique. Alors la titrisation synthétique, c'est-à-dire c'est à base de credit default swap, des produits dérivés de crédit, qui ont été le principal canal de contagion de la crise des subprimes. Ces produits sont opaques, ces produits sont spéculatifs et ils ont, disons, le gros désavantage en termes de propagation de risque, de pouvoir garantir un risque plusieurs fois. Donc un CDS, en fait, c'est un peu comme si vos voisins pouvaient acheter une assurance incendie sur votre maison. Je donne pas cher de votre maison après cela, on va lui mettre le feu. Alors les autres choses qui, disons, sont un peu décevantes 10 ans après la faillite de Lehman, c'est qu'on n'a pas réformé la structure des banques. Il y avait un projet européen qui était un projet de directive qui avait été lancé par Michel Barnier en janvier 2014. Il a été complètement et définitivement enterré par l'un de ses successeurs en octobre 2017. La troisième chose où on n'a peut-être pas vraiment retenu les leçons de la crise, ou en tout cas on va avoir peut-être des problèmes devant nous, c'est vous vous souviendrez que pour éviter l'effondrement du système, nous avons eu au niveau des banques centrales ce qu'on appelle ces assouplissements quantitatifs.
Oui, quantitative easing.
Qui ont eu comme conséquence des taux extrêmement bas. Le problème de taux extrêmement bas, c'est que ça a incité à l'endettement. On est à des niveaux d'endettement records, on pourra en reparler. Et cela est, disons, problématique parce qu'il y a des nouvelles bulles en matière du prix des actifs qui se sont créées pendant cette période.
Alors on pourrait dire aussi que si je me mets du côté des banques, quand on les écoute, les banquiers, vous les connaissez aussi comme moi, eux, ils ont plutôt tendance à dire, bah, écoutez, voilà, maintenant la régulation est telle, on a des ratios là, en Europe avec Bâle, Solvency, on a des ratios qui sont là partout pour, je dirais, la finance en général, hein, qui se sont installés, et quelque part, ça nous pèse, ça nous crée de nouveaux coûts, et on est aujourd'hui sécurisé. Ils ont tendance à dire que ils ont pris les mesures nécessaires.
Alors, d'abord, ce n'est pas eux qui les ont prises, ce sont les régulateurs. Il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, la crise de 2007-2008 était la résultante d'un mouvement de dérégulation profond. Là, la seule chose qui a été faite, disons, depuis la crise en matière de régulation post-crise, c'est on partait d'un niveau de régulation extrêmement bas, par exemple les fonds propres, et on a juste remonté ce niveau. Alors évidemment, les banquiers peuvent dire qu'il y a eu 40 directives qui les ont impactées, qu'il y a eu 400 textes au niveau 2 de la réglementation, ce qu'on appelle les RTS, que en gros, le chiffre est assez astronomique, mais je vais quand même essayer de l'expliquer, la régulation post-crise, à la fois aux États-Unis et en Europe, c'est à peu près 100 000 pages de documents. Donc, ça paraît énorme. Oui, mais c'est énorme. Pourquoi ? Un, on est parti de très bas. Deux, les banquiers, au travers de leur acte de lobbying, ont complexifié au possible toutes ces régulations en voulant introduire des définitions, des exceptions, etc. Et il est vrai qu'aujourd'hui, malgré ces textes importants, on n'a pas complètement régulé la finance. Il y a encore de gros trous.
Alors, malgré ça, on entend aux États-Unis, notamment avec le nouveau président, des volontés de déréguler. On l'entend un petit peu moins en Europe pour l'instant, mais aux États-Unis, clairement, on est encore. Alors qu'on avait effectivement cette dérégulation qui a abouti déjà à 2007, mais on est plutôt dans cette tendance-là.
Oui, tout à fait, et les mémoires sont courtes. Le président Trump envisage, disons, de défaire la règle dite de Volcker, qui était un mécanisme pas très poussé, mais disons de séparation des activités de marché par rapport aux banques plus traditionnelles. Et il a dans son agenda, notamment, disons, l'abolition d'une agence qui avait été créée après la crise, qui était une agence de protection des consommateurs en matière de services financiers.
On pourrait dire aussi du côté de, je dirais, de la dette, des dettes. Alors, il y a des dettes publiques aujourd'hui, des dettes privées. Il y a des vrais sujets. Où se situe le risque aujourd'hui? Vous avez parlé tout à l'heure de produits dérivés, mais on se pose la question 10 ans après, finalement, quand on entend parfois, on vient d'entendre Warren Buffett dire attention à la prochaine crise. Et aujourd'hui, on a tendance à dire oui, mais avec toutes ces dettes, avec tout ce qu'il y a, ça va être encore plus violent que celle qu'on a connue il y a 10 ans. Ça pourrait être plus violent.
Mais je vais vous donner deux chiffres. Ce sont des chiffres qui ont été estimés par McKinsey. En 2007, les dettes cumulées des gouvernements, donc des États, des ménages et des entreprises non financières, donc en excluant les banques, en 2007, ces dettes étaient de 97 000 milliards de dollars. À la mi-2017, donc il y a un petit peu plus d'un an, on est quand même passé à 169 000 milliards de dollars. Donc il faut bien garder en tête que la crise de 2007, qui était la résultante de la baisse des taux faite par M. Greenspan après le dégonflement de la bulle Internet, cette crise de 2007 est une crise d'endettement. Or, on se retrouve aujourd'hui à un niveau d'endettement à tous les niveaux beaucoup plus important, avec des taux très très bas, puisqu'on voulait, au travers de l'assouplissement quantitatif, éviter l'effondrement du système, mais qui vont remonter. Donc, il y a effectivement des risques non négligeables. Alors, il n'y a pas que Warren Buffett qui parle de cela. La semaine dernière, l'ancien président de la BCE, Jean-Claude Trichet, l'actuelle directrice générale du FMI, Christine Lagarde, et pas plus tard qu'hier, le Joint Committee, désolé du terme anglo-saxon, des trois agences de supervision financière européennes, le BA, qui supervise les banques, l'ESMA, qui supervise les marchés financiers, et EIOPA, qui supervise les assureurs, ont tiré le signal d'alarme en parlant de danger imminent.
J'ai envie de dire, peut-être avec une question provocante, mais pourquoi ça ne craque pas? Parce que on se pose la question, effectivement, quand on regarde l'histoire des marchés financiers depuis des années, au bout de 10 années quand même de ce style-là, en général, il y a des cycles sur les marchés. Là, on a l'impression qu'il n'y en a pas. Alors, parfois, certaines avancent le fait que les banques centrales, justement, cet argent qui a été mis dans le circuit permet de tenir. Mais là, on pourrait dire, mais pourquoi ça ne craque pas finalement? Ça, quand on voit, vous regardez les marchés américains, vous regardez des records en records.
Des records en records. Pourquoi? Parce que les taux sont bas. Ne pas oublier que, toute chose étant égale par ailleurs, la valeur d'une action, c'est l'actualisation de ses flux de trésorerie qu'on actualise au taux d'intérêt. Bon, taux d'intérêt spécifique au risque de cette entreprise. Pour éviter l'effondrement, comme je l'ai dit, les taux sont tombés à quasiment en zéro. On sait bien qu'un jour ou l'autre, ils vont finir par remonter. Je vais vous donner quand même l'impact, disons, financier d'une hausse des taux. Avant la crise, les taux, les emprunts d'État à 30 ans, par exemple, se baladaient aux alentours de 5% en termes de taux d'intérêt. Sur un 30 ans, quand vous faites passer le taux de 5 à 6%, ça engendre une perte en capital de 14%. Maintenant, quand vous regardez notre situation actuelle, c'est du terra incognita. Bon. Dans la situation actuelle, on ne démarre pas à 5%, on démarre à 0%, grosso modo. Faites passer le taux de marché de 0 à 1%. Et là, ça double le montant de perte en capital. C'est plus du 14%, c'est du 26%. Souvenons-nous aussi qu'on a l'habitude, puisque vous parlez de marché financier, on commence à parler d'un krach financier lorsqu'il y a une baisse de l'ordre de 20%. Donc, on a des risques qui sont non négligeables. Alors, pourquoi est-ce que ça n'a pas encore explosé? D'abord, je crois que personne ne le souhaite, parce que pour l'instant, les taux sont encore restés très assagie. Mais ça n'est pas quelque chose de très simple parce que ça continue à alimenter des bulles, ça permet à l'endettement de continuer à se développer et on a des prix d'actifs qui sont entre guillemets surévalués si on regarde ça sur le long terme.
Pour terminer, il y a aussi certains investisseurs qui disent, mais les banquiers centraux aujourd'hui sont allés tellement dans ce quantitative easing que vous mentionniez tout à l'heure, dans des politiques, comme on dit, non conventionnelles, on pourrait dire en terra incognita, que aujourd'hui, ça va pas être possible ou ça va être très difficile de remonter les taux, justement, compte tenu de l'endettement des États, par exemple, et que donc ils vont pas pouvoir le faire avant encore de quelques années.
C'est un véritable risque. La chose qui est en tout cas certaine, c'est qu'un jour ou l'autre, les taux vont remonter. Et ce qu'il faut, c'est qu'ils remontent lentement. Des chocs géopolitiques, une guerre commerciale possible entre les États-Unis et la Chine, le Brexit, dont on n'a pas encore mesuré l'impact, le ralentissement de la croissance en Europe. En Europe, en 2017, le taux de croissance du PIB était de 2,6%. 2018, ça sera du 2,3%. Et l'année prochaine, au mieux, on sera à 2,1%. Donc, on a quand même des zones de risque qui sont en train de remonter. Et ce que je disais tout à l'heure à propos des agences de supervision européennes, elles ont constaté qu'il y avait un problème d'évaluation, qui avait un risque de repricing de ce qu'on appelle la prime de risque, et que donc, et ce n'est pas moi qui le dis, il y avait à nouveau un risque de contagion. Le risque de contagion, c'est le risque systémique, c'est-à-dire si l'une des grosses banques qui font partie de cette liste des 30 banques systémiques avait un pépin, c'est des faillites en chaîne.
Donc il y a eu un Lehman Brothers il y a 10 ans et il n'est pas impossible qu'il y en ait un autre dans les prochaines années.
Voilà, alors on parle de pas mal de banques. Il y a la Deutsche Bank. Le problème de la Deutsche Bank, c'est qu'en termes de bilan, c'est 3 fois la taille de Lehman. Ce
D'où
qui est
la
un...
déflagration que certains imaginent.
Voilà. Je dois dire d'ailleurs qu'au niveau européen, et ça c'était dans les échos de ce matin, Danièle Nouille, la directrice générale du mécanisme de supervision unique des plus grandes banques européennes, a clairement dit qu'une crise était toujours possible. Moi, ce qui me surprend un tout petit peu, c'est que Madame Nouille, disons, a tendance à appeler de ses voeux une nouvelle concentration bancaire au niveau européen. Si
Le fameux too
cela.
big to fail.
Voilà, mais donc ça voudrait dire qu'on pérennise complètement l'aléa moral et le too big to fail. Le too big to fail, concrètement, c'est quoi? Ce sont les États, c'est vous et moi, qui sommes otages de ces banques dites systémiques. Alors, appeler de ses voeux une concentration bancaire européenne un peu plus poussée. On parle également actuellement de la Deutsche Bank, que je venais de mentionner, qui se rapprocherait de la
Commerzbank.
Commerzbank. Les deux banques en question, l'une est un zombie, l'autre est, disons, une grenade dégoupillée, créer un nouveau champion européen qui ferait la taille de BNP Paribas, si on agrégeait les deux bilans. Est-ce que c'est vraiment raisonnable aujourd'hui?
Voilà, il y a encore beaucoup de choses sur ces marchés, sur les banques et sur la finance. Merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous, Christophe Nijdam.
Je vous en prie.